monde, je suis vraiment content d'être ici parmi vous. Ça fait, depuis quelques temps, on était ailleurs, on faisait du ministère dans d'autres églises, donc quel privilège d'être ici dans la famille ce matin. Comme Marc a mentionné, ça va être moi qui va commencer et Laurie va venir à la fin pour un temps de réponse. Donc, c'est ça, comment ça va marcher. Alors que je préparais le message ce matin, j'avais le sentiment que Dieu avait quelque chose d'important à partager avec nous ce matin. Et après avoir entendu des prières ce matin, après avoir chanté certains chants, ça a été confirmé. Même la présentation de David, ça a été confirmé. Donc, donc je pense, juste pour commencer, on pourrait juste prier. Inviter Dieu à nous aider à préparer nos cœurs pour recevoir le message qu'il veut nous communiquer ce matin. Donc, Seigneur, on est là ce matin en tant que tes enfants. Maintenant, Seigneur, on ouvre nos mains, on ouvre nos intelligences, on ouvre nos cœurs pour recevoir le message que tu veux nous communiquer. Merci à l'avance, Seigneur, pour ce message, parce que tu es un bon Dieu. Donc, on le prie en ton nom. Amen. Donc, combien d'entre vous ont déjà rencontré un barrage routier? Vous êtes parti, faire un tour en ville dans votre voiture, peut-être pour aller travailler, pour faire des courses ou pour faire quelque chose d'amusant. Et soudain, votre voyage est gâché à cause d'une barrière routière. Soyons honnêtes, c'est inévitable à Montréal, n'est-ce pas? Je vais vous confier un petit secret. Lorsque Laurie et moi avons quitté notre vie tranquille à Québec pour nous installer à Montréal, la circulation, la construction et les inévitables barrages routiers sont faillis par nous fatiguer. Je pense que nous nous sommes finalement adaptés, mais nous avons trouvé cela très difficile pendant un bout. OK, c'est ça. Maintenant, c'est une chose de rencontrer un barrage routier ou notre problème lorsque nous conduisons. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous rencontrons un barrière routier dans la vie? Lorsque nous rencontrons un problème qui nous arrête dans notre chemin, que faisons-nous? Juste pour le fun, j'ai fait une recherche Google pour trouver les problèmes les plus communs auxquels les gens sont confrontés. Vous allez voir. Voici quelques-unes des problèmes que les gens ont listés parmi les plus importants de leur vie. Quand le câble du chargeur de téléphone ne peut pas arriver jusqu'à son lit. Quand la Wi-Fi est lente. Ou encore pire, quand on doit donner à ses amis son code Wi-Fi. Quand ses écouteurs s'émêlent dans sa poche. Quand on a faim, mais pas pour les aliments dans son frigo. Quand on ne reçoit pas autant de likes que l'on l'espérait lorsque vous publiez quelque chose sur les médias sociaux. Quand la batterie de téléphone est morte en public. Quand on pète l'écran de son téléphone. Et le pire des pires, quand on verse ses céréales avant de se rendre compte que l'on n'a plus de lait. Il est évident que ces réponses sont ridicules à la lumière de certains des problèmes réels que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui. Et je suis certain que beaucoup vous sont venus à l'esprit alors que même je vous tout cela. Et vous, et votre vie, quels sont les problèmes ou barrages routiers auxquels vous êtes confronté. Quels sont les obstacles dans votre vie ce matin? Pendant que vous y réfléchissez, laissez-moi vous raconter une histoire. Au milieu des années 90, l'Alliance chrétienne missionnaire au Canada a reconnu que le Québec était l'endroit le moins atteint par l'Évangile dans l'hémisphère occidental. Ils ont donc mis sur pied une stratégie et un budget pour envoyer une équipe de missionnaires au Québec qui viendrait aider à faire le travail ici. Pour raccourcir une longue histoire, Dieu nous a invités, Laurélie et moi, à nous joindre à lui au sein de cette équipe. En 1998, nous sommes arrivés au Québec avec notre fils Jesse, âgé de 6 mois, si vous pouvez l'imaginer. Dieu nous avait clairement appelés à venir nous joindre à lui dans cette province. Et nous étions enthousiastes à l'idée de le joindre dans ce qu'il préparait. Il nous a fallu un certain temps pour nous adapter. Par exemple, j'ai dû apprendre le français. Mais avec le temps, nous nous sommes enracinés ici. Et Dieu nous a donné son cœur pour ceux qui sont au Québec. En nous joignant à Dieu, nous avons pu commencer à construire et nous commencions à voir des fruits, en particulier chez les jeunes et les jeunes adultes. C'était tellement cool de se joindre à Dieu dans ce qu'il faisait. Et nous nous attendions à un long avenir ici. Et puis en 2007, l'Alliance a pris une autre décision. Qui allait changer nos vies pour toujours. La décision a été de retirer notre équipe de missionnaires du Québec et de nous redéployer dans d'autres endroits les moins atteints de l'Évangile dans le monde. Bien que nous ayons essayé de faire confiance à Dieu dans cette décision, que c'était en quelque sorte sa volonté parfaite, cela a été un énorme choc. Le choc était d'être redéployé et de continuer à recevoir du soutien ou de rester au Québec et de perdre ce soutien. Et moi, je ne me sentais pas en paix de quitter le Québec. Nous avons donc pris la décision de rester sans savoir comment nous allions subvenir à nos besoins. Nous étions confrontés à un énorme barrage routier. Je vais continuer l'histoire dans un instant, mais d'abord, je veux que nous regardions une autre histoire où un groupe de personnes ont fait face à un énorme barrage routier. Vous pouvez tourner dans vos Bibles, parce qu'on a un long passage à vérifier ce matin. Donc, dans le chapitre de 14 de l'Exode, nous lisons l'histoire du peuple d'Israël et de la traversée de la mer Rouge. Voici ce qui s'est passé jusqu'à ce moment de leur histoire. Okay? Le peuple juif était esclave en Égypte et Dieu a appelé Moïse pour demander à Pharaon de les libérer. Et cela a pris un certain temps et 10 fléaux plus tard, Pharaon les a finalement libérés. Dieu a dirigé l'immense groupe de personnes vers la terre qu'il leur a promise. Il n'y avait qu'un seul problème, une énorme masse d'eau, la mer Rouge. Et de l'endroit où les Israélites ont atterri, la mer Rouge était large de 14 kilomètres et profonde de 90 mètres. Comment allait-il traverser? Et pour aggraver les choses, les Égyptiens ont décidé qu'ils voulaient récupérer leurs esclaves et les ont donc poursuivis dans le désert. La mer Rouge se trouve donc d'un côté et l'armée égyptienne de l'autre. Ils étaient entre le marteau et l'enclume. Et c'est là que nous reprenons l'histoire, commençant par le verset 10. Donc, attache ta tuque. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force. Ils disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, « Laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » Moïse répond au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous, vous n'aurez rien à faire. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se mettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. » Et au verset 19, l'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elles viennent se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre, mais du côté des Israélites, il éclaire la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les unes des autres pendant toute la nuit. Moïse lève sa main sur la mer. Et toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fait reculer la mer. La mer s'ouvre. Il y a un chemin sec. Les Israélites avancent sur le chemin sec au milieu de la mer. L'eau forme comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens suivent les Israélites. Tous les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers entrent derrière eux au milieu de la mer. Et vers la fin de la nuit, le Seigneur qui est dans la colonne de feu et de fumée regarde le camp des Égyptiens. Il met le désordre dans leur armée. Il bloque les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors, les Égyptiens disent, « Fuyons loin des Israélites, parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. » Comme nous continuons à le lire dans l'histoire, une fois que tous les Israélites sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, le tunnel s'effondre et l'armée égyptienne est détruite. C'est une histoire incroyable, n'est-ce pas? Comment Dieu a fait un chemin? Mais il n'y en avait tout simplement pas un. Comment il a enlevé un barrage routier qui les paralysait, les empêchait d'avancer. Quand je réfléchis à cette histoire, je vois certains principes que nous pouvons appliquer à nos vies, aux problèmes ou aux barrages routiers qui affectent nos vies. Tout d'abord, au verset 10, nous lisons, et voilà. Comme le roi d'Égypte approche, les Israélites lèvent les yeux. Voici les Égyptiens qui avancent derrière eux. Ils ont très peur. Ils se mettent à appeler le Seigneur avec force. Alors, le premier principe que nous pouvons tirer de cette histoire est le suivant. Chaque fois que nous nous trouvons devant un barrage routier, c'est une invitation à lui. À lui crier au secours. Lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, il est normal d'avoir peur, de se sentir impuissant. On peut même avoir l'impression de se noyer. Et parfois, nous pouvons nous sentir comme un animal piégé. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous libérer. Je pense que dans ces moments difficiles, nous devons développer le réflexe de tourner notre regard vers le ciel et d'implorer Dieu. Dire comme le psalmiste David, « Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Mais il y a différentes façons de crier à Dieu, n'est-ce pas? La police, les pompiers et le personnel paramédical ont remarqué que souvent, lorsqu'il y a un grave accident de voiture, les gens, quelle que soit leur foi, crient à Dieu pour les sauver. Il y a une différence entre crier à Dieu par peur et panique et crier à Dieu avec un sentiment de confiance en Dieu tout-puissant. Quand je lis cette histoire, je ne suis pas sûr si les Israélites aient bien compris. Ils viennent de traverser une période où ils avaient vu les merveilles de Dieu, les 10 fléaux. Ils avaient été libérés de l'esclavage routier qui se trouvait devant eux. Ils avaient toutes les raisons d'avoir confiance que Dieu pouvait et allait faire un autre miracle pour eux. Cependant, comme nous l'avons lu, ils ont crié à Dieu, plus par peur et par panique que par confiance que Dieu pouvait les délivrer. Les gens commencent à réagir de toutes sortes de manières différentes. Ils commencent à paniquer, à se demander pourquoi Dieu les a conduits dans cette situation. Certains d'entre eux ont commencé à se préparer pour le voyage de retour en Égypte. Il y avait un manque de confiance en Dieu pour faire un chemin là où il n'y en avait pas. Alors, lorsque vous pensez aux obstacles dans votre vie, est-ce que vous criez à Dieu? Et si oui, qu'est-ce qui vous pousse à crier à Dieu? Est-ce votre peur ou votre confiance en Dieu tout-puissant? Le même Dieu qui a dit, « Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. » Le Dieu de miracles, le Dieu qui nous aime complètement. Il est là, il nous écoute, et il a la solution à tous les problèmes que nous pourrions rencontrer. Alors, comment répondez-vous à l'invitation de Dieu de lui faire confiance? Trouvez-vous cela difficile ou facile? Comment avez-vous vu Dieu à l'œuvre dans le passé qui vous aide à développer votre confiance en lui pour la situation en question? Que devez-vous faire pour y parvenir jusqu'à ce que vous arriviez à un point de confiance? Quand les barrages routiers arrivent, répondront à l'invitation de Dieu à lui crier au secours. Et ensuite, au verset 13, nous lisons ceci. Moïse répond au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur, résistez. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place et vous, vous n'aurez rien à faire. » Alors Moïse était convaincu que Dieu allait les sortir de leur situation et s'adressa au peuple en disant, « Calmez-vous, Dieu s'en occupe. » Et voici notre deuxième principe. Chaque fois que nous nous trouvons devant un barrage routier, Dieu, après avoir lui crié au secours, il nous invite à rester calme, et attendre sa solution parfaite à notre problème. Il répondra, peut-être pas toujours de la manière que nous attendons, mais il répondra. Je ne sais pas si je suis le seul à le faire, mais j'ai souvent cette envie d'aider Dieu à répondre. Peu de temps après notre déménagement à Montréal, il est devenu évident que nous devions remplacer notre vieille mini-fourgonnette. Voici une photo. Nous avons donc commencé à prier à ce sujet. Nous avions entendu parler de la façon dont Dieu avait fourni des voitures aux autres, et nous avons donc attendu un certain temps pour voir si Dieu allait nous en fournir une. Quelques mois se sont écoulés et je suis devenu impatient. Et j'ai donc commencé à consulter différents sites web. Ça ne pouvait pas faire de mal de regarder qu'une mini-fourgonnette d'occasion coûterait. J'en ai trouvé une qui me semblait être une bonne offre avec un kilométrage relativement faible. Pour raccourcir l'histoire, nous avons fini par l'acheter. C'est notre mini-fourgonnette noire. Mais peu après notre déménagement à Montréal. Oh non. Maintenant, je vous raconte cette histoire. Non pas pour vous dire que Dieu ne nous a pas conduits à cette mini-fourgonnette ou que nous n'en sommes pas satisfaits. Non, nous sommes contents. Je vous la raconte plus parce qu'après l'avoir achetée, Laurélie et moi avions tous les deux ce sentiment tenace que nous avions peut-être raté la façon dont Dieu voulait pourvoir à ce besoin. Il y a une différence entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. La solution de Dieu est toujours la meilleure. Imaginez si les Israélites s'étaient mis en route pour trouver des bateaux afin de passer de l'autre côté de la mer Rouge. Peut-être qu'un groupe d'entre eux aurait réussi à se mettre à l'autre côté, mais ils auraient manqué l'un des plus grands miracles jamais vus dans l'histoire du monde. Lorsque nous nous trouvons devant un barrage routier, c'est l'invitation de Dieu être calme et attendre sa solution parfaite. Alors ce matin, si vous êtes devant un obstacle, êtes-vous calme ou agité? Attendez-vous la solution de Dieu, la meilleure solution? Ou essayez-vous de résoudre le problème tout seul? Si vous luttez contre cela, qu'est-ce qui est au cœur de tout cela? Y a-t-il quelque chose dans le passé? Peut-être une prière qui semble rester sans réponse? Ou une autre déception qui vous affecte en ce moment? Que pourriez-vous faire qui vous aiderait à entrer dans un état de calme, dans un état qui vous permettrait d'attendre la solution de Dieu en paix? Répondons à l'invitation de Dieu ce matin à rester tranquille et à attendre qu'il fasse ses merveilles. Alors Moïse est en train de calmer tout le monde en leur disant que Dieu va faire un chemin quand Dieu dit cela au verset 15. Pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, prends ton bâton et lève-le sur la mer ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Alors, notre dernier principe est le suivant. Quand Dieu répond, quand sa solution arrive, c'est son invitation à réagir ou à agir. Comme nous l'avons lu, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Dieu a ordonné au peuple de commencer à avancer. Mais le chemin à travers la mer Rouge n'était pas encore là. C'est seulement lorsqu'ils se sont dirigés vers la mer et seulement lorsque Moïse a levé son bâton au-dessous de la mer qu'un chemin s'est ouvert devant eux. Quelle que soit la façon dont Dieu répond à nos prières, il y a un moment où il nous invite à agir et cette action prend parfois un pas de foi. OK, revenons à mon histoire que j'ai commencée au début. Alors, nous étions en tant que famille devant un énorme barrage routier. Nous ne savions pas quoi faire. Nous avons crié à Dieu pour qu'il nous aide et nous guide. Et alors que nous nous demandions ce qu'il fallait faire, je n'oublierai jamais la nuit où j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je regardais la pelouse devant notre maison. Toutes nos possessions étaient là, comme si nous attendions l'arrivée d'un camion de déménagement. Et sur la pelouse, il y avait un panneau à vendre. Tout d'un coup, le téléphone a sonné à l'intérieur de la maison. Et quand j'y ai répondu, une voix à l'autre bout du fil a dit que c'était une erreur et que nous devions remettre toutes nos affaires dans notre maison. Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'ai eu le sentiment profond que les choses allaient s'arranger, que Dieu enlèverait le barrage routier, qu'il nous faisait un chemin. Mais il fallait un pas de foi de notre part pour rester au Québec, pour attendre ce que Dieu allait faire pour nous, comment il allait enlever le barrage routier. Pour raccourcir une longue histoire, peu de temps après, le district nous a proposé un nouveau rôle et un partenariat qui répondrait à nos besoins. Et aujourd'hui, nous sommes encore au Québec. Il y a des moments pour se reposer et attendre, mais il y a d'autres moments pour agir. Je suis sûr que nous avons tous entendu l'histoire de l'homme qui s'est noyé. C'est un chrétien et il appelle donc Dieu à le sauver. Quelques instants plus tard, un sauveteur arrive pour le sauver, mais l'homme refuse l'aide, disant que Dieu le sauvera. Peu de temps après, un bateau passe. Mais l'homme refuse à nouveau l'aide, disant qu'il attend que Dieu le sauve. Enfin, un hélicoptère arrive sur les lieux. Une fois de plus, l'homme refuse de l'aide et se noie. Donc, il arrive au ciel et demande à Dieu pourquoi il ne l'a pas sauvé. Eh bien, Dieu répond, « Je t'ai envoyé un sauveteur, un bateau et un hélicoptère. Que voulais-tu d'autre? » Si vous êtes confronté à un obstacle ce matin, est-ce que Dieu vous invite maintenant à bouger? Peut-être son invitation va prendre un pas de foi. Y a-t-il quelque chose qui vous retienne, vous paralyse, qui vous empêche de bouger? N'ayons pas peur de répondre à l'invitation de Dieu à agir sur sa solution à notre barrage routier. Et faisons un pas de foi vers notre délivrance. Alors, chaque fois que nous nous trouvons devant un barrage routier, Dieu nous invite, un, à lui crier au secours, deux, à rester calme et attendre sa solution parfaite à notre problème, et trois, agir quand sa solution arrive. Et pour terminer, voici quelques dernières choses que je voulais juste ajouter. Peut-être des pensées bonus. Premièrement, Dieu agira toujours d'une manière qui apportera la gloire à son nom. Au verset 4 et au verset 17 de l'Exode chapitre 14, il dit clairement que ce qu'il allait faire, c'était d'apporter la gloire à son nom. Nous lisons au verset 4. « Je fermerai le cœur du roi et il vous poursuivra. Alors je monterai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Par là, les Égyptiens sauront que le Seigneur, c'est moi. » Okay, je pense qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre à propos des moments où se manifeste la gloire de Dieu. Comme nous l'avons lu dans cette histoire, sa gloire s'est manifestée au détriment des Égyptiens. En première vue, il peut sembler que Dieu est injuste envers eux. Mais je crois que pour comprendre pleinement l'histoire, nous devons voir que quand il est écrit que Dieu fermerait le cœur de Pharaon, je crois que ce qu'il dit, c'est qu'il retire sa présence et son influence de l'occasion, permettant à Pharaon de choisir pour lui-même ce qu'il voulait faire dans la situation. Alors que le cœur de Pharaon se tourne contre les Israélites, Dieu agit pour sauver le peuple qu'il a choisi. Dieu n'est pas égoïste. Il ne manipule pas pour obtenir la gloire. Lorsqu'il reçoit la gloire, c'est toujours pour démontrer sa présence dans l'univers, non pour flatter son ego, mais pour se révéler à ses fils et filles qui ne le connaissent pas, pour les inviter à entrer dans une relation personnelle avec lui. Ou, pour ceux qui le connaissent déjà, à approfondir une relation personnelle avec lui, surtout en lui faisant confiance. Donc ça, c'est le premier bonus, point bonus. Voici le deuxième. Dieu est bon. Il se soucie de nous et nous aime. Il est digne de confiance. Et il entend nos cris, même quand nous ne le voyons pas. Il œuvre. Il est pour nous et pas contre nous. Gardez toujours cela à l'esprit lorsque vous vous trouvez devant un barrage routier. Donc, alors que vous réfléchissez à tout cela, j'invite Laurélie à venir. Elle va nous diriger dans un moment de réponse.
Troy me dit qu'on a le temps. Je ne sais pas. Non, la façon qu'on voulait finir ce matin, c'est de se tourner les uns vers les autres pour prier, parler un peu. Donc, si on a le temps, Marc, oui? 5 minutes peut-être? Oui? OK. Donc, il y a 3 choses qui sont venues à l'esprit pendant que Troy parlait. Premièrement, peut-être tu es ici aujourd'hui et tu fais face à une crise, un barrage routier, et tu as besoin de se rappeler comment Dieu a agi dans le passé, ou même d'entendre un témoignage de quelqu'un d'autre, de voir, oui, voilà un exemple, un témoignage de la façon que Dieu a agi, je peux avoir confiance. Donc, ça, c'est la première invitation. Peut-être partager vos témoignages de comment Dieu a agi dans le passé afin de s'encourager, de rester ferme dans notre foi. Deuxièmement, peut-être tu es à cette place-là où tu cries vers Dieu, mais tu es un peu en panique. Et comme Troy a demandé certaines questions, des fois c'est à cause des expériences dans le passé où on ne l'a pas vu agir de la façon qu'on voulait qu'il agisse ou quelque chose est arrivé. Peut-être tu es là, dans cette place-là. Soyez honnêtes les uns envers les autres et demandez la prière. Dieu, révèle à moi pourquoi je suis agitée, pourquoi je trouve pas à me calmer en toi. Pourquoi c'est là? Est-ce qu'il y a une barrière quelque part, Seigneur, que tu veux enlever? Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et troisième, c'est le discernement, n'est-ce pas? C'est cette question de quand rester calme et attendre et quand est-ce que c'est le moment d'agir? Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? On le voit dans l'histoire, c'est là, oh oui, OK, c'est clair, selon nos yeux, quand on regarde, on relit cette histoire. Mais quand on est dedans, ce n'est pas évident. Donc, peut-être que tu es juste à cette place-là. Tu as besoin de quelqu'un d'autre, de prier avec toi pour dire simplement, Seigneur, je ne sais pas. Je suis dans ce moment de discernement. Est-ce que c'est le moment d'agir ou est-ce que c'est le moment d'attendre? Donc, trois choses. Tourner les uns vers les autres. Peut-être partager un témoignage pour s'encourager. Deuxièmement, demander à Dieu pourquoi je suis agitée et je ne me trouve pas une façon de me calmer en toi. Ou trois, je suis dans le discernement. Est-ce que c'est le moment d'agir ou est-ce que c'est encore le moment de rester calme et attendre? Donc, on vous laisse à quelques minutes. Donc, trouvez quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas autant que comme votre époux ou épouse, quelqu'un d'autre. Et on va prendre 5-7 minutes pour ça et puis terminer avec la louange.